Bonjour à tous, merci d'être venus, donc d'être venus à la FMSH pour cette présentation. Alors, cette présentation rentre dans le cadre des livres en dialogue qui sont organisés chaque mois par Charles Sonnisky. Le livre qui sera présenté ce soir a été publié dans la collection Bibliothèque allemande et avec le soutien du programme Penser en langue qui est orchestré par Betty Dansunt, qui est quelque part, qui est ici. Voilà. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bodo Mrozek. Il est historien de la culture et d'histoire contemporaine à l'Institut Leibniz d'histoire contemporaine de Munich-Berlin. Il a étudié à Berlin et à Amsterdam et a travaillé entre autres à l'Institut Max Planck de développement humain ainsi que dans des instituts et universités à Berlin, Potsdam et Luxembourg. Dernièrement, il a occupé la chaire d'histoire et de théorie de la musique populaire à l'Université Humboldt de Berlin. Sa monographie donc en allemand, Jugendpopkultur, eine transnationale Geschichte, publiée en 2019 chez Zurkamp à Berlin, a reçu le prix de l'International Association for the Study of Popular Music. Vous me dites si je me trompe, hein, bien sûr. Pour le Best Non-English Language Book. Donc, elle a été choisie dans le cadre du programme de traduction franco-allemand de la FMSH pour être traduite dans une version abrégée en français, et c'est celle que nous présentons évidemment ce soir. La tradition Histoire de la pop, quand la culture jeune dépasse ses frontières 1950-1960. Donc, cet ouvrage est paru en janvier 2024 dans la collection Bibliothèque allemande. Cette collection a été soutenue, est soutenue activement par nos partenaires allemands ou franco-allemands, le DAAD, le Goethe-Institut Paris, le Centre Georg Simmel de l'EHESS, de l'Institut Leibniz d'histoire contemporaine, Munich-Berlin et de l'Institut historique allemand Paris. Donc, c'est un programme important que nous suivons, que nous poursuivons, que nous soutenons et qui nous permet de faire de très très beaux ouvrages. Rapidement, je ne vais pas aller trop loin dans la description de l'ouvrage, mais dire simplement donc, dans un monde en plein bouleversement, les années 56 à 66 ici traitées, où la seule année 56 voit l'invention, entre autres, du disque dur par IBM, la nationalisation du canal de Suez, la tentative de révolution en Hongrie, la culture jeune provoque un bouleversement majeur, remettant en question des normes sociales par de nouveaux codes de musique, de mode et de comportement, souvent perçus comme des signes de délinquance juvénile. Une culture pop émergente, souvent perçue comme une dégradation morale, justifiant censure et sanctions. Bodo Mrozek examine cette période en mettant l'accent sur la France, les deux Allemagnes, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il analyse les réactions sociales et les débats autour de la culture jeune, à travers une vaste recherche d'archives dévoilant les continuités dans les discussions sur la violence juvénile, les comportements déviants et la morale publique. Je n'irai pas plus loin. Nous avons 45 minutes justement pour affiner toutes ces questions qui sont aussi d'actualité. Je dis très rapidement aussi qu'il y aura une autre rencontre le 2 juillet au Point Éphémère à Paris. Maintenant, je laisse la parole et l'animation de cette rencontre à Marjorie Bertin. Merci d'être là. Merci à tous encore pour votre présence. Et bonne question pour la suite. Dans 45 minutes, vous aurez les questions à poser.
Absolument. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je suis ravie d'être parmi vous pour parler de cet essai, qui est un livre passionnant, doté d'une très riche iconographie, des pochettes de disques, des photos de concerts, d'admirateurs, des photos d'émissions de radio, des affiches aussi. Alors, c'est un livre qui est très érudit et qui est aussi très drôle. Il y a beaucoup d'humour sous votre plume, Bodo. Et c'est aussi une analyse transnationale qui étudie l'histoire, donc, des transfert culturel, une histoire culturelle de la pop et de ses lieux de circulation. D'ailleurs, ce livre sera en vente tout à l'heure à l'issue et en signature, si cette rencontre vous aura donné envie, je l'espère, de vous immerger dedans. Alors avant de nous plonger dans cet essai, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous. Pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier la pop ? Et pourquoi cette période de l'histoire de la musique précisément, dont vous dites bien d'ailleurs que le bornage que vous avez effectué de 1950 à 1960 n'est pas totalement figé, il est un peu mouvant cette histoire de poser des limites, mais pourquoi précisément ce courant ?
Oui. Bonsoir. Merci au début pour l'introduction et pour m'avoir invité. Il faut dire que cet événement est une grande aventure pour moi, mais au début pour vous, parce que je parle français. J'essaye de parler français. J'espère que ça marche. Sinon, il faut peut-être reprendre un petit peu en anglais, mais je vais essayer de faire ça. Et Marjorie, oui, merci pour cette question. Comme être historien, je m'intéressais et je m'intéresse toujours spécialement pour la culture un peu inofficielle. On a beaucoup des livres d'histoire sur les relations internationales au niveau de politique ou des institutions. Le franco-allemand, par exemple, toutes les institutions qui sont engagées ce soir également. On a beaucoup des histoires sur ça, mais la culture pop, c'était pas un grand sujet pour les historiens en Allemagne. C'est un peu différent en Angleterre et les États-Unis parce qu'ils ont des disciplines comme les cultural studies. Et si on veut faire des études sur ce sujet-là, on peut juste faire des cultural studies. Mais je crois qu'en France et également en Allemagne, ce n'est pas très, très établi, ce sujet-là. Et ça, c'est la raison pourquoi les historiens, pendant peut-être les dernières dix années, ils ont commencé d'étudier la culture pop comme une culture, inofficiellement, mais peut-être plus importante pour des démocraties de masse après la guerre. Beaucoup des changements, pas vraiment des contrats politiques et des choses comme ça, mais on a écouté ça déjà, l'histoire du corps, l'histoire de la musique, de la culture, de la mode, il y a des interrelations avec des questions de genre, les relations entre les genres, les relations également, et ça m'intéressait beaucoup dans ce livre-là, les relations transnationales, des effets entre les pays, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, mais également une sorte d'américanisation dans tous les pays européens. Et je crois qu'on peut parler sur une sorte de temps charnier, les années 50 et 60, les conflits étaient très grands, très forts, et ça, pourquoi j'ai choisi exactement cette période-là.
Alors, vous analysez avec finesse justement l'arrivée de cette culture, la façon dont elle va imprégner les sociétés et puis évidemment aussi les réactions qu'elle va susciter, qui vont être quand même très, très virulents parfois, et les changements au sein des sociétés. Ce qui m'a frappé en premier lieu en lisant votre essai, c'est que c'est l'arrivée d'une culture qui est très jeune, qui est transnationale, donc, comme vous venez de le dire. Et puis, c'est un changement de paradigme qui va s'accompagner de modes vestimentaires qui plus est transgressives. Pour quelles raisons ?
Oui, cet entretien, c'est très spontané, mais par hasard, j'ai peut-être une photo pour cette question ici. Les modes vestimentaires sont un sujet parce que beaucoup de gens pensent histoire de la pop, c'est une histoire de la musique pop, et on a un peu d'un problème avec ce mot pop parce qu'en Allemagne, nous avons établi un petit peu le mot pop pour une sorte culture généralement. En France, on a le mot variété pour le genre de la musique pop, mais je crois que ça change un peu entre-temps. On a également une philosophie du pop publiée en France. Et ça, c'est actuellement, je m'intéresse pas seulement pour la musique, et c'est pas une histoire de la musique ou des musiciens. On a vraiment beaucoup sur la musique. Il y a un chapitre sur la musique, mais également sur les codes vestimentaires, sur les codes du corps, comme on veut, comme vous voulez. Et ces images-là, à gauche, c'est un peu drôle, difficile de traduire ce mot-là. Nous avons également le traducteur du livre ici pour un peu plus tard. Peut-être il a une idée. Mais c'est un journal allemand qui se moque sur un certain style première moitié des années 50. Et on a le genre là avec une... c'est pas vraiment... pour nous, c'est pas choquant ou choqué. Mais il a une chemise Savoy et des chaussures avec des soles de, comment dire, de rubber soles en anglais. Et ça, il a l'air d'une américanisation totalement. Et à l'autre côté, ce sont des Teddy Girls. C'est une photo un petit rare parce qu'on a une subculture dans les années 50 en Angleterre qui s'appelle les Teddy Boys. Similaire que les blousons noirs un petit plus tard en France peut-être et en Allemagne, les Halbstarke. Et c'est un bon exemple que certaines modes, certains styles vestimentaires ils sont nés dans les rues. Par les jeunes, mais adaptés très vite par l'industrie. Pendant cette période que je décris, que j'analyse dans le livre, et j'ai un autre exemple, un peu une traduction des styles de la rue, des styles vestimentaires. À la gauche, c'est une caricature de la France, de Paris actuellement, je crois, Ménilmontant. C'est un Apache des gangs, des groupes sur les rues, fin de siècle, je crois, et violemment. Et à l'autre côté, ce sont les Bowery Boys de New York. Et ce sont des styles significants de certains groupes dans la culture jeune qui sont également criminalisés, avec raison de temps en temps, que sont une inspiration pour une mode vestimentaire, un style de la jeunesse généralement. Et par exemple, le cinéma, c'était très important. J'ai des images, des affiches pour des films, un certain genre. Le Juvenile Delinquency Movie, le film JD, c'est un terme anglais, pour des films sur les problèmes avec la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est le blouson noir. Sur une affiche de l'Amérique avec James Dean, sur une affiche allemande de l'Ouest, de l'Est. Et ça, c'est une sorte de symbole pour une jeunesse problématique qui fait de la rébellion, des choses comme ça. Et je crois que la jeunesse dans cette époque est très importante parce qu'ils sont nombreux. Ce sont des sociétés très jeunes.
C'est une société très jeune qui est confrontée aussi à des représentants, à des élus qui, eux, sont plutôt âgés et qui sont tous les trois d'anciens militaires. De Gaulle, Eisenhower, Churchill pour l'Angleterre, qui sont aussi les anciens alliés. Est-ce que ça participe de cette friction? Est-ce qu'il y a aussi une friction générationnelle?
Je crois oui, parce que la guerre, c'est une expérience commune dans toutes les sociétés que je scribe, mais dans une manière très différente. Et on a des exemples un peu curieux. Par exemple, en Amérique, des jeunes motocyclistes, des rockers de première génération, ils ont utilisé la swastika.
Là?
La swastika, c'est le symbole de Nancy. C'est quel est le mot français?
La croix gammée.
Exactement, merci. Pour provoquer la génération des soldats qui ont lutté contre les nazis. En Allemagne, les jeunes n'étaient pas nécessairement des nazis, c'était juste une sorte de provocation, un style très, très extrême. Mais en Allemagne, c'était très facile de provoquer la génération des soldats par porter une mode américaine, parce que c'était l'ennemi avant. Et voilà, on a directement les aspects politiquement dans les sociétés et également le militaire. C'est une grande tradition, je crois, en Allemagne, dans la France. Et dans ces décades après la guerre, on voit une sorte de démilitarisation des générations en général. Et ça se touche, on peut dire, également les styles vestimentaires un peu civils, pas uniformés, mais pas très formels, et également des sortes de postures, les mains dans la poche, c'était une provocation. On a beaucoup des sources qui disent que la jeunesse se perd, c'est une sorte de dégénération de la jeunesse.
Oui, puisque vous montrez très bien dans le livre, c'est que des genres musicaux qui aujourd'hui sont très normés, on a peine à imaginer que le rock, le calypso, le jazz vont vraiment générer des crispations. Qu'est-ce qui fait peur? C'est le fait justement que la jeunesse se démilitarise, se désolidarise d'un sorte d'objectif de jeunes au service de la nation qui pourraient se battre et qui finalement prennent trop goût à ces musiques, à ces modes, à ces soirées?
Oui, c'est une question un peu difficile. Qu'est-ce qui a fait peur? C'est pour nous, c'est vraiment bizarre, comme on lit toutes les sources sur cette jeunesse très dangereuse. Mais je crois que il était une très grande discussion dans toutes les sociétés sur la criminalité, la violence de la jeunesse. Et c'était, si on voit les nombres, c'était pas vraiment une augmentation de la violence. Au contraire, comparé avec les années directement après la guerre, avec tout le chaos dans toutes les sociétés là, et la pauvreté et des choses comme ça, la criminalité était plus, comme dans les années 50 par exemple. Mais on a eu, on a ce terme anglais « moral panics » et j'analyse actuellement comme les médias, la politique, les politiciens, mais également les experts des sciences sociales, ils ont profité de ce panique, ce moral panique, par faire des grandes études, des grandes studies sur la jeunesse de ce temps. Et la musique, c'était en raison, parce que la musique est très différente et les danses, ils sont pas comme avant la guerre. Et on a des documents vraiment bizarres. J'ai un exemple ici. Ce sont des événements rituellement où les gens détruisent des disques des Beatles. Et c'est un événement au Bible Belt en États-Unis, Berlin l'Est, ce sont les communistes, la Suisse et également l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est similaire, c'est le langage des images et c'est très forte une idée de détruire publiquement, spécialement en Allemagne, où les nazis ont jeté des livres dans le feu. Mais ce sont des idées de ce temps, et Et on a également des boycotts et des mesures comme ça qui étaient vraiment fortes contre la musique, parce que la musique était pour les gens dans le temps en raison pour la violence, c'est le chaos.
Et puisque vous analysez aussi avec beaucoup de finesse, est-ce que vous décortiquez qui a priori n'est pas ce qu'on retiendrait de cette époque, c'est une misogynie féroce qui s'exprime à travers les admirateurs, les admiratrices, notamment des Beatles, ou des fans d'Elvis Presley aussi, où les analyses médiatiques sont très virulentes. On qualifie les admiratrices de possédées, d'hystériques, de folles. Des photos sont particulièrement saisissantes aussi dans le livre, où il va y avoir des connotations sexuelles très fortes, des idées d'abandon très dangereuses.
Oui, ce sont des idées très différentes sur les jeunes hommes et les jeunes femmes. Les jeunes hommes, ils représentent un danger par la violence dans les rues. Et on parle actuellement sur les groupes pas vraiment significants, ce sont pas nombreuses. On a des événements comme ça, Et pendant les années 50, ça domine le genre de juvenile delinquency movie, les débats dans la presse, entre les experts. Mais les jeunes femmes, ils ne sont pas dangereux, ils sont, en danger.
Il faut les protéger.
Oui, il faut les protéger parce que ce sont des dangers de la morale. Et normalement, c'est iconique dans ces films-là de ce temps. C'est normalement un jeune homme qui a vraiment un caractère très mal et un jeune homme qui est entre les autres. Il faut peut-être lui, sauvegarder. Mais au fin, c'est toujours une jeune femme qui meurt. Il faut mourir pour des dangers de la morale, des choses comme ça. Et on a ces narratifs, ce sont les mêmes narratifs comme dans la presse. Et on peut également créer des stéréotypes et des mots comme des mots péjoratifs, comme on a mentionné les Halbstarke. La traduction pour un film, c'est les demi-sels. Et on trouve ces mots qui sont vraiment fictifs. Ce sont des clichés littéraires, comme vous voulez. On trouve ces mots dans les documents de la police après un certain temps. Et c'est une question généralement. Est-ce qu'on a la vraie histoire politiciens et la police et des choses comme ça, et l'histoire culturelle. Et disait, non, c'est toujours une connexion et les clichés sont créés dans la culture, mais ils sont très forts dans la société en général et également dans les mesures avec nouveaux lois et des choses comme ça, on trouve les mêmes discours. Et ça m'intéressait beaucoup, cette connexion entre l'histoire politiquement et l'histoire culturelle.
Puis alors, évidemment, les stars de cette époque dans ces trois cultures, dans ces trois sociétés, c'est vraiment les Beatles, icônes de la culture pop. On apprend en vous lisant qu'ils ont commencé à se faire connaître, non pas en Angleterre, ce que tout le monde pense, mais à Hambourg, en fait, ce qui expliquera la suite d'ailleurs. Et par là même, alors ce qui est passionnant, c'est que vous nous immergez dans la vie du port, de Saint-Pauli, de la rue urbaine. Il est beaucoup question dans votre essai de la Beatlemania. Comment est-ce que vous pourriez la définir en quelques mots, cette Beatlemania transnationale?
Oui, la Beatlemania, définir la Beatlemania, c'est une pathologisation d'un phénomène musical. Et c'est une maladie, cette mania, c'est une manie, c'est une maladie. Et on a une grande tradition de faire ça parce que la Beatlemania, c'est un mot qui arrive après. On a des phénomènes avec des fans féminin. Cette image-là, ce sont des fans d'Elvis des années 50. Mais je crois que tout le monde connaît ces films et ces enregistrements où on a des jeunes femmes qui crient comme hystériques dans les concerts des Beatles, spécialement. Et après ça, il commence un discours également entre les experts sur une sorte de maladie de la jeunesse et spécialement la jeunesse féminine, les jeunes femmes. Et c'est une grande tradition, bien sûr, du 19e siècle. Ça, c'est une célèbre photo d'Anna Lust de l'hystérie, une maladie féminine de Jean-Martin Charcot, du 19e siècle, et on a les similarités entre les phénomènes là et là. Et le Beatlemania était vraiment un moment où on a actualisé des clichés sur les femmes qui sont spécialement sensibles pour la culture, mais trop sensibles. On a des pathologisations de la culture dans le 19e siècle également, comme exemple, un exemple, c'est la Bovaritis. C'est un mot allemand, je crois, mais c'était la maladie de lire le roman Madame Bovary trop. Oui. Et c'est exactement la même tradition. Les femmes sont sensibles, il faut protéger, et spécialement avec la Beatlemania dans les années 50, c'était plusieurs des jeunes ouvriers. Mais les Beatles, ils ont des fans de tous les classes de la société. Et maintenant, c'est notre fille, our daughters. Et ça, c'est un grand changement. C'est pas parler sur les jeunes ouvriers qui sont dangereux, mais c'est le Beatlemania est, d'une certaine manière, on peut dire, c'est la naissance d'une culture populaire pour toute la société. Ce sont toutes les classes qui sont des fans des Beatles. On a également des sondages, des experts qui confirment ça. Et ça, c'est en relation avec l'idée de la criminalisation d'une jeunesse, et une jeunesse qui est nombreuse. Et c'est une vision apocalyptique pour l'avenir, une société des criminels. Et il faut de lutter contre la musique pour sauvegarder l'avenir, la future de la société.
Mais il faut dire aussi que, vous le racontez dans votre livre, les admiratrices, les admirateurs des Beatles, ils font un petit peu peur quand même. Enfin, ils vont, le jour de la sortie de leur deuxième album, qui coïncide avec l'assassinat de Kennedy, plusieurs milliers de jeunes femmes vont assiéger l'aérodrome, des centaines leur hôtel, il va y avoir 100 agents de sécurité qui vont venir pour essayer de régler tout ça. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Le tarmac va être forcé. Il y a des émeutes jusque sur les ailes de l'avion. Donc, il y a vraiment un engouement très, 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 très fort, qui était inédit aussi.
Oui, les événements avec la Beatlemania. Oui, on a des mesures également de la police, des grandes actions, et en raison pour actuellement on a des événements qui étaient un petit violents dans les concerts, par exemple. Mais les raisons dans les documents. On a le cliché en général, si on voit des documentations sur art, c'est toujours la culture pop, c'est une révolution, une grande révolution d'une génération. Mais actuellement, je trouve, après analyser les documents là, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu l'idée de faire une révolution ou d'être politiquement engagé. C'est juste, dans beaucoup de cas, danser, par exemple. Mais où les Beatles sont une des premières bandes qui jouent dans les maisons pour les concerts très traditionnels, comme The Royal Albert Hall, ou à New York, j'ai oublié, les fameuses maisons pour des concerts. Et la police essaie d'interdire danser dans les salles comme ça. Parce qu'on n'a pas de l'expérience, qu'est-ce que c'est un concert du rock, un concert du pop, qu'est-ce que c'est? On n'a pas de l'expérience avec ça. Et on a beaucoup d'événements où la violence actuellement commence de la police, des autorités, et après c'est l'interprétation. Oh, c'était une révolution, mais actuellement, la lutte ou la violence commence dans la société majoritaire. Pas vraiment nécessairement dans la jeunesse.
Oui, puis alors, il y a les vrais Beatles dans les institutions ou dans les grandes salles, et puis il y a aussi leurs émules. Et là, c'est assez extraordinaire. Dans le livre, vous parlez notamment des Beatles de la gare de Lichtenberg. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, de qui s'agit-il et comment étaient-ils ?
Oui, les Beatles de la gare de Lichtenberg, c'est le jargon c'est un peu drôle également, c'est un gars à Berlin, et c'est le jargon des organes de la sécurité dans le GDR. Et c'était actuellement un groupe de jeunes qui ont juste écouté la musique, des choses comme ça, c'était pas une bande. Mais on a des bandes à ADA également, comme les Butlers. Et ça, c'est une photo des Butlers. Butlers, Beatles, c'est très similaire. Et en ADA, c'est un cas très intéressant parce que les choses sont vraiment politiquement controverses et dangereuses pour les jeunes qui engagent dans cette culture-là. Et on a en 65, on a un essai de l'autorité d'interdire tous les noms des bandes allemandes en anglais. Il faut changer les noms. Les Butlers, je crois, c'était et c'était les autorités qui décidaient. On a un nouveau nom pour votre bande. Vous pouvez continuer à faire la musique, mais pas avec un mot anglais comme les Butlers. Vous êtes maintenant The Sputniks. Et c'est une sorte de soviétisation. Et contre ces idées politiquement, on a une des... Et voilà, c'est peut-être une petite révolution. Actuellement, on a une grande manifestation de 2000 jeunes à Leipzig pour les bands et pour le beat et contre l'État. Et ces graffitis sur le mur, là, ça dit « Es lebe der Beat, vive le beat ». Et Nieder mit Ulbricht, Down with Ulbricht, le président, sorte président de GDA. Et c'est un moment vraiment politiquement et également peut-être le début d'un développement où la GDA perd la jeunesse.
Oui, parce que ça va être un vrai courant de libération dans les trois pays que vous étudiez d'ailleurs. Et qui va parfois aller à l'encontre aussi de certains rites, de certains passages sociaux cruciaux dans la vie des jeunes gens. Vous racontez par exemple que le twist et le rock, et ça, fallait vraiment y penser. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez eu l'idée d'analyser ça, mais le twist et le rock dans les balles, en fait, vont transformer les rapports sociaux entre les jeunes hommes et les jeunes filles, puisque c'est là qu'ils se rencontraient, et c'est là qu'ils se touchaient généralement, qu'ils touchaient pour la première fois un individu de l'autre sexe. Là, le rock, le twist, c'est des danses très individuelles, finalement, où on est libre de son corps aussi. On touche plus l'autre, mais on gagne la liberté de son corps. On n'est plus dirigé par un autre.
Oui, il faut parler sur la danse et il faut peut-être écouter de la musique, finalement. On fait ça. Mais c'est vrai, Marjorie, je crois que le twist est une danse charnière entre la culture après la guerre, il faut dire, on a le Charleston dans les années 20, mais après la guerre, tous les danses étaient un homme qui est, comment dire, c'est un peu difficile de dire en français, mais qui garde la femme,
qui dirige
la femme,
qui guide.
Ce sont des rôles très pas flexibles. Et le twist, c'est une différence. Et on a, c'est pas une danse très célèbre dans la dans l'histoire de danse. Mais j'ai un exemple pour comment danser le twist. J'espère que ça marche.
Formidable.
Et voilà.
Non.
Une petite présentation.
De travaux pratiques après.
Oui. Et qu'est-ce qu'on a vu? Les mouvements de twist, ce sont les mêmes mouvements pour les femmes comme pour les, pour les hommes. Et c'est une grande révolution dans la danse parce que ça, il y a des conséquences très graves si les gens peuvent danser comme les femmes. C'est possible que les gens, les hommes, ils dansent ensemble. Et ça, c'est nouveau et c'est un scandale. Et on trouve en Amérique des interdictions de twist. Ce n'est pas vraiment bon. Et l'autre moral panic de twist, l'image là, c'est une pantomime de la sexualité. C'est parce qu'il faut vraiment mouver, comment dire, le dos et sous. Et c'est une scandalisation sexuelle, mais également pour les rôles sur les pistes de danse. Et il disait qu'aujourd'hui, dans les clubs, tout le monde twiste toujours, comme vous voulez. Ce n'est pas le twist, mais ce sont des gens en groupe ou juste seuls. Ils dansent avec petits mouvements, pas des grandes choses qu'il faut d'étudier dans les écoles de danse. Et c'est une crise pour l'école de danse également. Le twist, c'est vraiment le début, comme vous voulez, de la mouvement discothèque, de disco, et la fin des schools, des dance schools, des écoles de danse.
Oui, puisque vous racontez aussi dans le livre, c'est que les écoles de danse, elles sont un petit peu désemparées parce qu'elles ne connaissent pas du tout ces danses-là que les jeunes veulent apprendre, et ces danses viennent, comme cette musique, de la rue, de gens, ceux qui vont se les approprier, c'est pas ceux qui ont des maîtres de danse qui viennent chez eux régulièrement, c'est des apprentis, c'est des jeunes secrétaires, c'est des stagiaires, c'est ces gens-là qui vont créer ce style et qui vont amener ces danses.
Oui, actuellement, oui, c'est vrai, et... Et il faut dire que le twist, c'est une danse de la culture noire, non? C'est afro-américaine. Et le créateur de twist, c'était pas... aujourd'hui, tout le monde pense Chubby Checker. Ils disent ça sur son site internet. Mais actuellement, le premier enregistrement de twist, c'était un musicien de la musique Rhythm and Blues. C'était Hank Ballard, un musicien afro-américain. Et ce sont des effets de la commercialisation. Et également, on a des mécanismes de la transnationalisation des danses. Voilà un ambassadeur de twist à Berlin. Vous connaissez peut-être. C'est Johnny Hallyday, oui. C'est Johnny qui a présenté comme ambassadeur du twist. Il démontrait le twist à Berlin. Mais ces événements comme ça, c'était organisé, bien sûr, par des maisons de disques. Et il était également le TV, c'était très important. On a la célébrité de TV, comme vous voulez, Dick Clark, qui a eu une TV show nationale, American Bandstand. Et il y a eu un contrat avec une maison des disques, et ça, c'est le genre qui a fait, comme vous voulez, Chubby Checker célèbre, parce qu'il était dans cette maison de disques, dans le poche de cette maison de disques, ou le poche de claques. Et ce sont des effets, le cinéma immédiatement... commence de faire des grands films sur l'histoire de Twist et sur une sorte de moral panic, comme dans les années 50, mais avec la différence que ce moral panic n'est pas également forte comme contre le rock'n'roll. Et ce sont des effets d'établissement. Et les deux mouvements que j'analyse généralement dans le livre, c'est une criminalisation. Mais la criminalisation, c'est une ligne comme ça et un établissement. Et ça, ce sont les deux mécanismes pour la naissance d'une culture pop comme une culture pour des sociétés démocratiques après la guerre.
Puis alors, puisqu'on parle et qu'on voit Johnny Hallyday, il y a aussi dans le livre une grosse crispation, une grosse fixation de manière générale dans la criminalisation autour des cheveux. Vous saurez tout sur les cheveux de la culture pop en lisant le livre, qui s'appuie aussi, je le disais au début de notre rencontre, Bodo, sur une iconographie qui est très importante et sur un travail de recherche qui est vraiment colossal et qui parfois est atypique, puisque vous avez aussi collecté des sources policières, notamment de la RDA et de la Stasi. Comment est-ce que vous êtes procuré ces sources? Et pourquoi est-ce qu'elles étaient importantes pour vous? Est-ce que c'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la fabrication de l'histoire aussi?
Oui, non, c'était très important pour moi d'écrire ce livre-là avec les sources traditionnellement historiques. Parce que là, si on... et les sources sont pour moi, ils ont une valeur similaire. Les couvertures des magazines comme là. Deux grands magazines sur les cheveux longs des hommes, où on trouve également la panique sur les jupes courtes des femmes dans le même temps. Et c'est un bouleversement de genre dans ce temps-là. Mais pour moi, c'est également important de trouver des choses comme ça dans les sources historiques des autorités, des documents de la police. Et j'ai trouvé encore les clichés de la presse, de ces moral panics, dans les documents de la police. Pas seulement en ADA, les mesures étaient très fortes, comme par exemple, ils ont essayé... dans les années 60, de couper des cheveux des gens par exemple, stopper des jeunes gens dans une rue et prendre les passeports. Et la police a dit, okay, bon, c'est pas vous. Il n'y a pas une similarité entre la photo dans le passeport et votre chevelure. Nous prenons cet passeport, et si vous voulez retourner le passeport, il faut aller au coiffeur, et actuellement on a un coiffeur à la police, vous pouvez faire ça directement. Ce sont des mesures en ADA.
Pas mais très sympa,
oui.
Mais très malin. Yeah.
Mais j'ai trouvé également dans des documents de la revue de la police française, Liaison, des descriptions sur les philosophes de la rue Huchette avec des chevelures hirsutes et qu'est-ce que la relation avec la philosophie d'avoir des chevelures comme ça et des choses comme ça, les mêmes clichés sont dans les documents de la police. Et ça, c'est un exemple pour encore la connexion entre les discours de corps de la mode, et on trouve ça également dans les documents de l'histoire normale, si vous voulez. Et c'est une interrelation entre la culture, la politique, la sécurité. Et ça, c'est pour moi très important de travailler comme historien. L'avantage avec les époques comme ça, on a des sources très, très différentes. Audiovisuelles, je peux laisser les sources répondre à votre question, comme Antoine juste fait. C'est un avantage, mais il me faut vraiment également travailler dans les archives. Oui.
Puis ce travail donc, pour lequel il y a eu une immersion française importante de votre part, vous ne l'avez pas accompli seul puisque ce livre est traduit, Bodom Rozek. Il faut savoir que dans sa version allemande, il était plus important parce qu'il est quand même assez colossal ce livre. Donc là, il est un petit peu plus court et il a été traduit par Sofiane Boussahel qui est ici présent ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Donc vous l'avez traduit de l'allemand au français. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux? Comment s'est construite votre relation de travail? Comment est-ce que vous êtes rencontrés? C'était
Bonsoir.
En France ou en Allemagne?
Nous nous sommes rencontrés à Paris. Nous avions rendez-vous il y a 2 ans à peu près à l'Institut historique allemand qui se trouve dans le Marais. J'avais préparé un ensemble de questions qui portaient notamment sur des termes très précis, très techniques, et puis sur certaines expressions dont nous venons de parler tout à l'heure, des expressions qui ne sont pas courantes en français mais qui sont plus courantes en allemand, comme ces questions de poignées braillard des coffres pleureurs qui décrivaient donc ces appareils qu'on pouvait transporter facilement pour écouter de la musique. Donc, comme tout bon traducteur, j'ai interrogé mon entourage. Papa, maman, vous souvenez-vous du vocabulaire utilisé? On n'avait pas tout à fait les mêmes équivalents. Donc, comme tout bon traducteur ou toute bonne traductrice, j'ai dû faire appel à mon imagination et puis essayer de trouver des termes équivalents qui puissent reproduire aussi la charge poétique, hein, je dirais, de la langue allemande.
Et vous avez travaillé combien de temps sur cette traduction ?
Alors, c'est un ouvrage assez conséquent, qui n'est pas facile. C'est une langue scientifique. Je pense que pour un public, un large public, qui verra le titre « Histoire de la pop », ce public pourrait s'attendre à quelque chose de narratif. Alors, il se trouve que moi-même, j'ai un bagage donc, d'histoire de la musique. J'ai étudié l'histoire de la musique, mais une histoire de la musique beaucoup plus traditionnelle et qui ne prenait pas en compte tous ces aspects qui ont été mentionnés tout à l'heure de « cultural studies ». Donc, l'histoire de la musique, l'enseignement que j'ai reçu est un enseignement qui porte sur l'évolution des styles musicaux. Ici, on a beaucoup plus à faire à la musique, une approche de la musique sous l'angle de ses résonances sociales. Et puis aussi, donc, une approche que j'ai beaucoup appréciée en tant que traducteur, sous l'angle du vocabulaire utilisé pour décrire le phénomène musical. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la traduction dans ce livre.
Mais alors justement, est-ce que vous êtes, Sofiane Boussahel, est-ce que vous êtes dans une certaine mesure inventeur ? Lorsque papa-maman ne retrouvaient pas les mots, comment est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez inventé ? Est-ce que vous avez eu recours à des anglicismes parfois ?
Alors la question des anglicismes est souvent assez complexe, je dirais, quand on traduit ce genre de littérature de l'allemand au français. Parce que une langue comme l'allemand a tendance à utiliser beaucoup plus facilement les anglicismes, enfin une langue dans la langue scientifique, les anglicismes surprendront beaucoup moins le lecteur, alors que en français nous avons en général moins l'habitude de laisser les termes anglais, les termes anglophones tels qu'ils sont. Donc il m'est arrivé, je pense au mot sounds notamment, qui est dans la langue scientifique allemande, utilisée beaucoup plus facilement, j'ai dû plusieurs fois chercher des équivalents, tout simplement par exemple phénomène sonore, et puis ajouter une note de bas de page pour expliquer pourquoi je l'avais fait.
Et Bodom Rozek, est-ce que le fait d'être francophone a aidé quant à cette traduction ou pas au contraire? Est-ce qu'on n'a pas la tentation de traduire soi-même quand on est, ou d'apporter, de mettre son grain de sel, comme on dirait en français, c'est-à-dire de se mêler un petit peu des affaires du traducteur, puisque finalement c'est votre sujet et que ce sont vos mots.
Oui, je crois oui, mais il faut dire que Sofiane a vraiment fait un énormément de travaux avec cette traduction. Je sais que les mots en allemand sont un peu compliqués et il y a également des mots un peu drôles dans les sources, mais je crois que c'était très bon que j'essaie de comprendre le français un petit peu et nous avons vraiment communiquer sur ce processus, et c'était une grande aide et un grand actuellement, il est le vrai auteur de cet ouvrage ici, parce que c'est la langue toujours, oui.
Vous êtes
Merci beaucoup. Oui.
les vrais auteurs tous les deux. Avant de donner la parole à la salle, qui, j'en suis sûre, ne manquera pas de vous poser des questions et de vous faire des remarques aussi sur cet essai, je voudrais vous demander, cette culture pop, en quoi est-ce qu'elle est inspirante pour nous aujourd'hui? En quoi est-ce qu'elle peut nous transformer et nous guider au quotidien?
Oui, je crois que on a maintenant les temps sont un peu difficiles, spécialement en France, il faut dire. Les temps directement, oui. Et on a, j'ai trouvé également en Allemagne cette idée, non seulement à l'extrême droite, mais spécialement à l'extrême droite, l'idée que il y a des élites qui sont transnationales, c'est un cosmopolite, les élites cosmopolites, et ils ont une culture, ils ont beaucoup de. Ils ont fait des études et des choses comme ça. Et ils sont capables d'avoir une culture internationale. Mais les gens simples, pour lui, pour eux, c'est important d'avoir une culture nationalisée, une culture de pays, de patriotisme, des choses comme ça. Mais dans ce livre-là, je démontrais actuellement que c'était toujours les gens simples, les jeunes ouvriers qui ont lutté pour la musique afro-américaine, pour le jazz en Angleterre, dans les clubs des fans pendant la Beatlemania. Ils ont fait vraiment un travail de lobby. Pour avoir leur musique, la musique de la jeunesse, mais ce sont également dans la musique des Beatles, ce sont des versions des chansons afro-américaines de temps en temps, d'avoir cette musique sur le radio. Et c'était les élites qui ont toujours dit, ah non, c'est pas la culture, ce sont des bruits, ce sont des athlètes bruits, comme Sofiane a traduit cette drôle mot. Elvis, c'est pas un musicien, ce n'est pas de la musique, ce sont des bruits. Il est un athlète des bruits. Et ça démontre, ça, pour moi, c'est la preuve que l'idée, il faut être, je ne sais pas, étudiante ou avoir beaucoup, faire beaucoup des études pour avoir une culture internationale. Ce n'est pas vrai. C'était en histoire, c'était au contre. C'était les élites qui étaient toujours contre l'internationalisation de la culture.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonhomme Rozek. Est-ce que vous avez des questions, monsieur?
Bonsoir. Par rapport au livre, ce que moi je voudrais noter, c'est justement par rapport à l'image qu'il y a en Allemagne, où les jeunes en tagant ont refusé d'être instrumentalisés. Et dans le livre, comme Florence ou Arnaud, vous reprenez l'événement de 63 à Nation. Et dans votre description, c'est effectivement un des événements de l'incompréhension de tous ceux qui ont essayé de comprendre les blousons noirs et le rock'n'roll, même dans votre chapitre. Il faut se souvenir que quand l'industrie du disque a fait venir Vince Taylor dans les années 60, il joue au Tabarin et Presley à côté est une planche vis-à-vis de Vince Taylor. Même Bowie va effectivement le voir. Et le rapport féminin Vince Taylor, même Bardot et Sophie Daumier sont tombés amoureux de Vince Taylor et ils l'ont tué. Et qu'en 61, quand il fait le Palais des Sports, les blousons noirs par rapport à Nation sont venus parce qu'ils n'ont pas, comme là, comme en Allemagne, ils n'ont pas voulu qu'on leur impose la contre-révolution yéyé. Et tous les concerts, si on fait l'histoire des concerts, justement à l'Olympia, on peut voir l'ensemble des groupes qui sont venus. Little Richard en 1. Ensuite, effectivement, James Brown, Otis Redding, tous ceux qui sont venus, Jerry Lee Lewis. On voyait effectivement cette différence de classe, même au sein de la jeunesse. C'est-à-dire que faire une histoire de la pop sans voir comment, même vis-à-vis de Presley quand on l'a mis en prison, comment la contre-révolution avec le doo-wop, doo-wop, on a voulu instrumentaliser. Presley, on l'a mis en prison. Le film de Priscilla montre bien à quel point il est enfermé sur sa propre image par rapport au premier film, au-delà du film australien. C'est de cela. Et que c'est vrai que pour contrer effectivement Vince Taylor, ils ont essayé avec Europe numéro 1 de faire un festival sur un an. Ils en ont fait 3, la boom du rock, du machin, pour essayer d'imposer. Et que tous les jeunes qui habitaient de Clignancourt, Montreuil, même un garçon comme Moustique, pour se moquer du plus mauvais chanteur de rock'n'roll qu'est Johnny Hallyday, qui dit « Johnny, celui qui chante en mi ». Le seul chanteur de rock'n'roll en France qui est au Bus Palladium, c'est Vigon. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui connaissent Vigon. C'est le seul qui savait chanter Little Richard et qui a su chanter effectivement le rhythm and blues, qui a permis effectivement qu'il y ait une rencontre en 65 entre le rhythm and blues et le rock'n'roll. Et les Beatles, qui étaient assez extraordinaires, ils vont jouer à Hambourg dans un quartier comme à Pigalle, je suis de Pigalle, et ils vont faire mettre... leur première révolution, c'est par rapport à des musiciens, ils s'opposent, ils vont au rock'n'roll. Le manager fait venir effectivement Little Richard, grande tournée sur 2 ans. Et c'est les Beatles qui vont revenir aux États-Unis, rendre à la jeunesse qui en avait marre du doo-wop, doo-wop ou de Ricky Nelson, qui va effectivement leur faire revenir le rock'n'roll. Il y a une vraie rencontre.
Merci et là, beaucoup. Ce c'est soir, tout à fait passionnant, mais mis, peut-être que et c'est tout à fait passionnant et je suis sûre que ça sera l'opportunité d'en parler dans quelques instants. Mais est-ce que vous pourriez juste ou préciser votre question, peut-être demander un petit
c'est
temps.
Surtout de croire que l'histoire, elle serait univoque comme ça. Il faut voir comment l'industrie, ceux qui est les Philippaki, même si celui qui fait jazz dans la nuit. C'est un marchand.
Alors
ils ont acheté effectivement à Vogue.
Je vais laisser Bodo Mrozek vous répondre. Et il me semble que, juste pour répondre moi en 30 secondes, il me semble que l'industrie du disque et toute l'opportunité commerciale que ça représente à ce moment-là est extrêmement abordée dans ce livre et analysée et critiquée.
Non, merci beaucoup pour l'expertise, vraiment impressionnante. Et vous avez raison, ce sont beaucoup des points vraiment importants. Je ne suis pas capable de répondre tous, mais je trouve très intéressant que vous avez dit que les Blues en Noir sont dans son contre-révolution, contre les yéyés. C'est une bonne explication parce que le phénomène des Blues en Noir autour... l'année 60, non? En France, c'est une sorte, comme on peut dire en allemand, un Sonderweg, développement très spécial, parce que dans tous les autres pays européens, on a ces phénomènes dans les années 50 déjà. Et la France, c'est très tard. Et c'est un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'il y a un moral panic sur les blues en noir à l'année 60. Dans tous les autres pays où on a les films, dans le cinéma, des choses comme ça, c'est très, très tard. Peut-être une contre-révolution contre les yéyés, le grand succès avec la Nuit de la Nation, le grand concert sur la Place de la Nation de 62. Et les autres choses sur les maisons des disques, ça touche un schisme dans la... dans l'académie comme le Studies of Popular Culture. Et ça, c'est la séparation entre la consommation et la production. Et j'ai essayé de faire un petit peu les deux, mais il y a beaucoup de place pour autres livres sur des événements, des maisons des disques et des développements commercial, On peut faire vraiment des autres études et on a vu pendant les dernières 10 ans beaucoup de livres sur des autres phénomènes, des phénomènes également plus tard comme le punk en soviétique, en RDA, en Hongrie, des choses comme ça. Et c'est actuellement maintenant un sujet un peu établi dans l'histoire et je suis heureux que ça soit le cas.
Je reviens à ce qui symbolise Black Bloc aujourd'hui en France. Et pourquoi j'ai dit symboliser ? Parce qu'au-delà de la musique, Bloc Black, ça représente quelque chose de très important politiquement ici en France, tant au niveau des Gilets jaunes comme actuellement avec les histoires de Gaza. Le Bloc Black prend une symbolisation et je me demande dans tout votre livre, que je n'ai pas lu, excusez-moi, mais je suis à l'écoute de ce que vous dites, et la symbolisation a été un axe autour desquels vous avez fait votre travail.
Vous parlez sur un phénomène contemporain, non? Non musical. Il me faut dire que je ne suis vraiment dans ce phénomène-là. Black Bloc, c'est un phénomène de manifestation ou comme l'extrême gauche? Ah oui. Non, je vois ce phénomène-là dans tous les pays que j'ai étudié ici, mais c'est un peu difficile de faire la connexion à mon livre directement parce que je ne m'occupais pas vraiment avec l'organisation politiquement. Il y a beaucoup de livres sur l'extrême gauche, mais et qui m'intéressent vraiment, et c'était très important, spécialement dans les années 60. Mais c'est un peu la raison que ce livre ici, la fin du livre, c'est l'année 66. Et pourquoi ça? Parce que j'essayais de n'écrit pas sur 68. On a beaucoup, beaucoup des études sur ça et l'idée ici, c'était de trouver une sorte, peut-être pas une révolution, mais une évolution dans la société. Et pas avec des actions directes sur la rue, des groupes politiquement. Je n'ai pas vraiment la connexion ici. Mais vous avez absolument raison que c'est un phénomène vraiment important, et spécialement pendant les années, je crois, 80, c'est un phénomène un peu plus tard.
Oui, bonjour. Merci pour cette présentation et ce sujet très intéressant. Désolée, j'ai mal à la gorge. Et j'ai deux petites questions rapides. D'abord, vous avez parlé de l'accueil enthousiaste de ce mouvement en Allemagne surtout, et de changement de mode de vie, de vêtements et de cheveux. J'aimerais savoir, vous avez passé sur RDA et l'Allemagne de l'Ouest, est-ce qu'il y avait des différences? Peut-être j'ai manqué quelque chose. Et la deuxième question, ça concerne, vous voulez répondre à la première? You like to answer the first question, and then I'll tell you.
Je peux, oui. Ouais. Les différences entre les deux Allemagnes dans la culture de la jeunesse, oui. Disais, dans les phénomènes dans la culture jeune, c'était plus ou moins le même, avec la différence que c'était possible de former, par des enthousiastes, de former une bande et avoir un petit peu succès. Parce que les maisons de disques, il était là et c'était possible de former une sorte de culture pop commercialisée. Mais en GDA, c'était très, très différent. Mais c'était la même musique, les mêmes styles, comme vous voulez, Après, dans les années 70, on a des phénomènes un peu bizarres en Allemagne de l'Est, RDA, comme The Blues. C'est un peu un phénomène très, très typiquement pour le GDA, chanter le blues, mais avec des textes allemands un peu poétique et des vêtements très bizarres, différents que les autres subcultures. Mais je crois dans les années là, c'était un peu un phénomène d'américanisation dans les années 50 et, si vous voulez, d'anglisation avec les Beatles et des bands comme ça dans les années 60.
Et toléré par le pouvoir en place communiste quand même. Elle était tolérée.
Encore? Tolérée?
Tolérée.
Non, ce n'était pas toléré. Dans une certaine... oui, avec un homme allemand. Il existait en ADA, dans le communisme, des règles très bizarres. Par exemple, sur la radio, mais généralement en ADA, les soirées DJ ou des choses comme ça, il était très important, et par loi, de jouer la musique des pays socialistes, je crois, 60%. Et c'était les règles. C'était les règles, mais c'était très difficile. Si cette musique était juste musicale, sans des textes, quelle est l'origine de ce morceau? Et c'était une sorte d'un joue entre la culture jeune et les autorités. Ils n'ont pas l'expertise pour décider est-ce que c'est un morceau des vrais Beatles ou des Butlers de Leipzig. C'était un peu drôle, mais également dangereux pour certains acteurs de ce temps-là.
Sur l'accueil de mouvements ouvriers en Angleterre, par exemple, ou même dans le monde, ou en Europe en général, vous parlez de l'internationalisation de ces mouvements. Vous croyez que... Est-ce qu'il y avait une culture populaire locale avant? Et ça a changé quelque chose. Et pourquoi maintenant, ou quelques années après, on va dire les années 70, ce n'est plus une culture populaire de cette classe sociale? Elle est devenue un peu de la bourgeoisie, un peu éduquée, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je sens que c'était rapide. C'est fascinant, d'ailleurs, d'accueillir ces mouvements. Maintenant, avec notre regard, on dirait que c'est plutôt une classe un peu éduquée. Elle a le goût à la Bourdieu.
Qui exactement?
Qui quoi?
Dans la culture pop.
Dans la culture pop, comme disons le jazz.
Oui, oui.
Et c'est-à-dire ils se l'ont approprié, les ouvriers.
Oui.
Parce qu'ils n'avaient pas de musique ou de chansons à eux.
J'ai oublié d'avoir ici cette image-là. On a les fans du jazz dans les années 60 à droite. Et le bongo craze, une sorte phénomène populaire autour la musique bongo, la musique africaine, ou comme les gens pensaient que l'africaine est très sexualisée. Et ce sont des manières de la réception des musiques populaires en même temps, mais la manière à la droite, c'est le jazz intellectuel. Et il y a beaucoup des sortes de jazz qui sont également criminalisées de temps en temps, comme le Dixieland. On a des événements bizarres en Allemagne où les fans de Dixieland ont organisé des parties mais très légères. Et on a une certaine morale panique sur le Dixieland, sur le Jazz New Orleans, en Allemagne du Nord, Allemagne de l'Ouest. Il y a un politicien qui essayait d'interdire le Jazz New Orleans en 62. C'est un événement vraiment bizarre et local. Et on a la question était également: est-ce qu'on a des cultures locales, non? Oui, absolument. Il y a des cas où une culture locale, un style local, une mode locale était nationalisée, transnationalisée, peut-être globalisée. comme la mode française. Et il faut dire que un acteur très important de la culture pop comme Johnny Hallyday, il était connu en Allemagne, mais il n'a pas des succès juste en France. Mais sa musique, c'est actuellement inconnu en Allemagne et dans les autres pays. Il y a plusieurs, mais tous les gens, tout le monde connaît Johnny. Oui, c'est le rocker français. C'est une célébrité, un caractère des films, une sorte de type. Mais la musique est vraiment juste connue en France. Et ça, c'est pas vraiment une transnationalité de son musique, mais de son image, si vous voulez. Merci.
Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, c'est très intéressant. Je suis sociologue de la musique aussi, donc je raconte l'histoire de la musique et j'avais deux choses, j'avais une question parce que je n'ai pas encore lu votre livre. Je vais l'acheter, je vais le lire avec plaisir. J'ai compris que c'était beaucoup de semaines, d'années, de mois de recherche. La première chose sur le twist, en une phrase, c'est que, en fin de compte, ce qui a changé avec le twist, c'est que certes, avant, les danses se faisaient à deux, et que le twist a totalement et surtout libéré la femme. La femme ne dépendait plus de l'homme pour décider de danser ou pas. Elle pouvait danser toute seule, ce qui n'avait jamais été le cas avant, sauf en Amérique du Sud, où il y a certaines danses qu'on peut aussi danser seule, etc. Mais dans les pays européens, ou en tout cas Western Civilized, c'était la première fois où la femme n'attendait pas qu'un homme l'invite pour pouvoir enfin s'éclater et danser. Donc le twist, au-delà d'être une mode, une danse et beaucoup d'autres choses, ça a été une énorme, sociologiquement, une énorme libération. Ma question était la suivante. Je vous ai écouté. Et il y a deux choses que j'ai peut-être mal compris, que je voudrais que vous m'éclairiez. La première chose, c'est que quand il y a des... vous semblez vous étonner sur le fait que plusieurs pays ou capitales essayent de maîtriser tout d'un coup des événements ou qui deviennent sous contrôle, ou en tout cas de contrôler certaines choses qui se passent. Mais ça, j'ai l'impression que surtout que la musique ou cette musique-là, ou les années 50 et 60, pour la première fois, c'est d'abord et avant tout, c'est pas une révolution ou des voyous ou des délinquants, c'est d'abord une énorme libération. Pour la première fois, la jeunesse n'attend plus d'être éduquée par ses parents pour décider de ce qu'ils ont envie de lire, de voir ou d'écouter. Et la musique précipite un peu ça de manière directe, c'est juste du son. Donc le sang fait bouger le corps et les âmes. Mais donc ça c'est la preuve. Mais peut-être que je me trompe. Et donc c'est surtout le fait que c'était pas une question d'interdire. Enfin c'était plutôt la panique de ne pas maîtriser ce qui se passait tout d'un coup avec la jeunesse qui décidait seule ce qu'elle voulait. La dernière question, ça c'est une vraie question. C'est j'ai l'impression que dans votre livre, un des angles importants de ce livre-là. C'est tout le travail que vous avez fait sur l'analyse liée à la délinquance, aux statistiques de prison, etc. etc. Bon. Donc, il existe énormément de livres sur ce sujet-là. Et je voulais savoir quelle était la raison d'étudier ça. Est-ce que pour vous, les années 50, enfin, entre 50 et 60, pour quelle raison vous avez étudié ça, en partie sans doute, sous cet angle-là ? À la fois de la délinquance, des statistiques et de tout ce qui est prison, arrestation ou choses comme ça. Est-ce que c'est... Pour quelle raison ?
Est-ce que j'utilisais les statistiques ? C'est la question ?
Oui, enfin, surtout tout ce qui est criminel.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez vu ce qui était... les statistiques de prison, les amendes, les corrections, oui. les emprisonnements, les jugements. Et surtout que cette musique-là, apparemment, était liée... Ces musiques-là étaient liées à la délinquance. Est-ce que c'est un des angles majeurs de votre livre ?
Pas tant que ça, j'ai l'impression.
J'utilisais des statistiques, mais ce n'est pas une histoire sociale où les sources sont surtout des statistiques, des méthodes des sciences sociales. C'est plusieurs une histoire culturelle, mais et je n'ai pas étudié des statistiques de prison, des choses comme ça sur un niveau très détaillé. Mais après, c'est Morel Panik sur la jeunesse. Et moi, je m'intéresse plusieurs la morale panique en interrelation avec la jeunesse, avec la culture, avec la musique. C'est difficile de trouver des statistiques, mais j'ai trouvé des statistiques et ils ont fait des sondages aux fins des années 50 pour demander est-ce qu'il y a actuellement vraiment été une augmentation de la violence, des choses comme ça. Et les statistiques là, ils disent non. Non. Et j'ai trouvé également des statistiques sur l'utilisation de la musique. Le problème, c'est un petit peu comme les statistiques en Allemagne, par exemple, sur le rock'n'roll. Il date dans l'année 53 ou quelque chose comme ça, 54. Et le rock'n'roll n'est pas un terme. On trouve le mot jitterbug ou boogie-woogie et pas le rock'n'roll. Et les sociologues dans le temps, il travaille toujours avec cette statistique-là, mais c'est pour expliquer un phénomène qui n'était pas là dans cette année des statistiques. Et ça, ce sont des problèmes d'essayer de quantifier des phénomènes culturels. C'est toujours difficile, mais vous connaissez ça, être sociologue de la musique, bien sûr. Merci pour la question.
Alors, je me permets quand même de faire une petite synthèse, si j'ai bien compris en plus. Hein. J'entends beaucoup de corporalité. Il est question du corps et l'exultation du corps. Et effectivement, on peut considérer aussi que, comme ce sont des phénomènes, la musique qui concerne, là en l'occurrence, et depuis toujours, il y a quand même un bastion qui est la jeunesse. Donc, le corps doit exulter, mais il exulte dans certaines circonstances. Si je peux me permettre, hein, j'ai l'impression de faire... donc, je considère que les années 50 viennent juste après, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, que les Apaches venaient en début du siècle, à des époques où, effectivement, le prolétariat, etc., était déjà bien en souffrance, hein, depuis, en tout cas, voilà, du début du 20e siècle. Et donc, il y a eu aussi... et on en a un petit peu moins parlé, mais après la Première Guerre mondiale, donc le phénomène musical aussi, qui faisait exulter les corps, c'est-à-dire les azous, etc., dans des endroits qui étaient souvent en souffrance, hein, puisque c'était Ménilmontant, Épigale, et voilà. Et donc, je finis avec une question. Qu'est-ce que ça veut dire « pop » Voilà.
Oui, donc, très bonne question, enfin. Une très grande question. Comme j'ai dit au début de cet entretien, j'utilise le terme pop, c'est une short form for popular culture, right? Mais j'utilise le terme là pour décrire une culture qui est dominé par le son, par la culture audiophonique, si vous voulez, mais dans ce temps également visualisé. On trouve les images sur les disques, et ça commence dans le deuxième moitié des années 50, par exemple. Et c'est pas vraiment juste, c'est pas un genre de la musique, mais une culture populaire, une culture de masse, mais terminée par certains discours médials et sensuels, si vous voulez. Le son est central, sounds est central dans la culture pop, et c'est ça. C'est. Mais actuellement, je ne travaille pas vraiment avec une définition comme un chablon et je cherche où est-ce que je trouve cette définition dans l'histoire, mais je décris également comme cet mot est invité dans le temps là et où on trouve le mot. Et on trouve le mot dans les arts, pop art, bien sûr, et dans les charts for pop music en Amérique dans les années 40, très, très tôt. Et après, on trouve ce mot-là autour de l'année 66 sur les grands magasins Newsweek, Times sur Swinging London, et ça, c'est le moment où les contemporains utilisent le mot pop pour décrire la société et le changement dans la culture.
Merci beaucoup Bodo Mrozek d'avoir été avec nous. Et donc je rappelle que si vous le souhaitez, Bodo Mrozek va signer quelques exemplaires de son livre à l'issue de cette rencontre.
Merci Marjorie, merci à vous pour être ici. Et, il faut remercier des personnes, on a des institutions là, mais un grand merci à Pascal Boulereau, le directeur de l'édition, mais également à au traducteur Sofiane Boussahel, à Bettina Sunt, Fonds Traduction, Astrid Thornhellig, Anna Calvière, et Charlotte Zornitzky des éditions de la Maison de Sciences de Lan. Et merci beaucoup, spécialement Marjorie Baton, pour cet entretien. C'était très sympa. Merci beaucoup.